Afrique, lorsque vous êtes prisonnier, d'abord vous êtes condamné avant d'être passé devant les barreaux, avant d'avoir rencontré un avocat, vous êtes déjà considéré coupable. Donc, en Afrique, c'est plutôt la présomption de culpabilité et il vous revient de prouver que vous n'êtes
que
pas
vous
innocent.
Innocent. Voilà.
Que vous êtes innocent.
Voilà.
Alors qu'ici, c'est la présomption d'innocence et vous restez un simple suspect jusqu'au moment où il est établi devant les tribunaux que vous êtes coupable.
Et cela tient même dans les cas où quelqu'un est pris avec une arme en main, il vient de tuer un autre.
Tout à fait.
Il reste un suspect.
Il reste un suspect et on appelle ça, c'est justement le problème ici, on appelle tous ces gens les suspects et non les condamnés. Mais chez nous, c'est exactement le contraire. Et c'est justement ce qui justifie le fait qu'on ait des gens très nombreux dans les prisons. Vous êtes enfermé jusqu'au jour où vous passez au procès, alors qu'ici, vous êtes plutôt mis en liberté provisoire en attendant le procès et votre condamnation.
À moins que votre crime soit très grave, auquel cas vous devez payer une caution pour...
C'est ça la liberté provisoire. Même si votre crime est très grave, si vous déposez la caution, si vous rencontrez un juge, vous rencontrez un juge d'instruction, vous allez déposer une caution. Si vous êtes éligible pour la caution, parce qu'il faut dire que si vous avez les risques de vous enfuir, vous n'êtes pas éligible pour la liberté sous caution ou la liberté provisoire.
Donc c'est laissé à la discrétion du juge.
C'est discrétionnaire. Mm-hmm. C'est discrétionnaire. Mais bien sûr, la discrétion du juge est exercée dans des canons bien définis par la loi.
Parce que c'est pas une décision comme ça.
Ce n'est pas une décision arbitraire.
Voilà.
Mais en Afrique, on n'a pas cette option-là. Lorsqu'on vous arrête, il vous revient de dire au tribunal que vous êtes innocent, au lieu que le tribunal présume que votre innocence est clamée.
Ouais, donc, très bien, merci de cet éclairage. Et maître, en dépit de cet encadrement légal du système carcéral américain, il y a tout de même beaucoup de problèmes, puisqu'il y a au moins 2,2 millions de détenus. Du coup, il y a surpopulation. Et cela, notamment du fait de certaines sentences obligatoires, par exemple pour trafic de drogue. Expliquez-nous un peu comment ça marche.
La surpopulation de la population carcérale, c'est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Mais restons aux États-Unis pour regarder. Lorsque il y a un monsieur qui est condamné à vie pour avoir utilisé la cocaïne pour la toute première fois. Alors, est-ce que ce monsieur est un criminel dans le sens propre du terme? Est-ce que c'est ce genre de personnes que le droit criminel a été désigné pour punir? Je ne pense pas. Alors, ces personnes qui, pour la première fois, ont fait une erreur dans la vie, devraient être données une chance de revenir s'insérer dans la société. On pouvait les punir pour un temps bien défini. Et après ce temps, ils seraient hors de la prison. Un, avantage, ça coûtera moins au gouvernement. Deux, ça fera une personne de moins en prison. Et trois, ça fera que le budget du gouvernement ne soit pas dépensé pour nourrir cette personne qui, normalement, ne devrait pas se retrouver dans cette position.
Parce qu'en ce moment, chaque année, le gouvernement fédéral dépense jusqu'à 80 milliards de dollars pour l'entretien des prisonniers.
Ce n'est pas le budget du gouvernement, c'est l'argent, c'est les impôts que les populations payent. Donc, en fait, ça revient à nos frais.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous avons un autre auditeur, Abdou Sita du Gabon. Bonsoir. Allô, Abdou.
Et bonsoir, monsieur.
Oui,
bonsoir.
Oui, allez-y, Abdou.
Oui, en fait, je vous remercie infiniment de m'avoir permis à participer à l'émission.
Oui, allez-y.
Oui, en fait, bon, moi, j'ai pris des mots à dire. Ils ont tout dit, mes frères, ils viennent de répondre tout à l'heure. Ils ont tout dit.
Voilà, merci. Merci, Abdou. Maître Fa, une autre préoccupation ici aux États-Unis, c'est la surreprésentation de deux communautés, les Noirs et les Hispaniques, en milieu carcéral. Ils sont, selon les chiffres que j'ai vus, 60% des détenus, alors que ces deux groupes combinés ne constituent que 30% de la population générale.
Malheureusement, c'est le triste constat. Vous l'avez vous-même entendu de la voix du président. Quand vous êtes noir ici, vous avez plus de chances d'être arrêté, vous avez plus de chances d'être incarcéré et vous avez plus de chances d'avoir le maximum de la peine prévue dans les statuts s'appliquer dans votre cas. Lorsque vous êtes hispanique, vous venez de l'Amérique latine, vous avez plus de chances d'être interpellé, arrêté, incarcéré, jugé et condamné et la peine sera plus aggravée dans votre cas. Ce n'est pas le cas pour les Blancs. Qu'est-ce qui justifie ça? Nous pensons que c'est toujours les vestiges du racisme qui a eu lieu dans ce pays. C'est toujours les Blancs qui sont supérieurs. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le président l'a dit. et même l'Assemblée comprend, les statistiques le prouvent, ce ne sont pas des mots qui viennent de moi, ça vient des statistiques. La majorité de la population carcérale, ce sont des gens à couleur, comme on les appelle ici. Et c'est la triste réalité du système américain. Je n'ai pas d'explication particulière à cela.
Et c'est ce qui a amené le président à lancer un véritable plaidoyer en direction des membres du Congrès, puisque c'est eux qui font les lois. Donc, il leur demande de se pencher sur cette situation et d'essayer de faire quelque chose pour essayer de, si l'on veut, équilibrer la balance en faveur de ces deux groupes-là.
Je pense que l'appel vers le Congrès, c'est un appel tout à fait logique, ça, tout son pesant. Mais c'est quelque part, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que les peines sont appliquées peut-être de façon arbitraire, mais les statuts tels qu'ils s'appliquent, c'est des statuts neutres. C'est simplement que ceux qui viennent devant les tribunaux de façon constante, c'est des gens de couleur, parce qu'ils sont susceptibles d'interpellation et d'arrestation. Je ne vais pas dire arbitraire, parce que généralement, il y a toujours des raisons pour votre interpellation. Mais simplement que si ça avait été un blanc, je dis bien blanc, un vrai blanc, permettez-moi entre guillemets, un vrai blanc qui commettait la même erreur, on lui aurait certainement donné l'option de « ok, ça c'est votre première fois, n'allez, ne recommencez plus ». Mais le noir ou bien le gars de l'Amérique latine, on ne lui donne pas cette même chance-là. Et du coup, il se retrouve derrière les barreaux et c'est ce qui justifie le taux très élevé de cette population-là en prison.
Voilà, nous avons d'autres auditeurs en ligne. Ibrahim de Conakry. Bonsoir, Ibrahim.
Allô, bonsoir, vous allez bien?
Oui, tout va bien, Ibrahim.
Oui, bon, moi, je dirais que la décision que Obama a prise, c'est une bonne décision parce que, tout simplement, l'être humain doit être respecté. Bon, en ce qui concerne aussi les prisons en Guinée, bon, moi, je dirais que c'est vraiment l'enfer. Bon, les prisons sont surpeuplées. La dignité humaine n'est surtout pas respectée aussi. Bon, les innocents profitent dans les prisons sans jugement. Et puis, le plus souvent, ils n'ont pas droit à contacter les avocats. Et en cas de maladie, ils ne sont pas traités comme ils se doivent. Donc, vraiment, les prisons guinéennes, c'est l'enfer. C'est ce que j'avais à dire là-dessus.
Merci, Ibrahim de Conakry. Et cela dit, Maître Fa, les erreurs judiciaires, on les retrouve aussi ici aux États-Unis. Des cas de personnes innocentes qui sont condamnées et qui sont par la suite exonérées, qui sont par la suite blanchies par un peu plus d'enquêtes.
Eh bien, aucune œuvre humaine n'est parfaite et Dieu merci, nous sommes aujourd'hui arrivés au test d'ADN. Et les tests d'ADN ont permis d'exonérer plusieurs personnes qui par le passé avaient été condamnées à mort et qui n'attendaient plus que le jour de leur exécution. Et lorsqu'on on retrace le chemin, on regarde les enquêtes, on regarde comment est-ce que les preuves retenues à l'encontre de ces suspects ont été maintenues et conservées, on se rend compte qu'il y a eu des erreurs. Et lorsqu'on va pour refaire les tests d'ADN, on se rend compte qu'effectivement, c'est des personnes qui ont été condamnées à mort n'étaient même pas coupables, n'étaient même pas au lieu du crime. Il s'avère simplement, peut-être quelqu'un a dû utiliser son t-shirt ou sa veste le jour de l'assassination et est parti là-bas et ça se retrouve sur la scène du crime avec ses traces d'ADN là-dessus, bien évidemment. Mais ça le place au lieu du crime. Mais en fait, lorsqu'on fait une examen approfondi, on se rend compte qu'il n'est pas le criminel. Donc, c'est des erreurs qui arrivent. Mais dans notre système judiciaire, c'est des erreurs. Alors que chez nous, en Afrique, c'est des intentions. C'est fait intentionnellement. Moi, je m'aligne derrière tous les auditeurs qui ont appelé pour décrier plutôt le système judiciaire chez nous en Afrique, pour décrier le système carcéral chez nous en Afrique. Chez nous, même ceux qui ont des problèmes civils se retrouvent en prison, alors que les matières civiles, par définition, se traitent dans des tribunaux civils où il n'y a aucune peine d'incarcération. C'est des matières de contrat. Si vous avez pris de l'argent, vous n'avez pas remboursé et vous êtes reconnu débiteur, on récupère vos affaires personnelles qu'on exécute et on paye votre créance avec. Mais en Afrique, au lieu de suivre cette procédure, on récupère les affaires personnelles et on vous met en prison. Donc, ça, c'est l'un des problèmes pour la surpopulation carcérale en Afrique, les arbitraires.
Merci, Maître. L'Amérique et vous, nous allons vous retrouver après cette pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous consacrez ce soir aux prisons américaines à la faveur de la visite jeudi du président Barack Obama dans une prison de l'Oklahoma. Timothée Donangmaï, avec vous ce soir, notre invité, maître Joseph Fa, avocat à Silver Spring dans l'État du Maryland. Vos interventions en direct au 001, le code pour les États-Unis, 202-619-3140. Alors, maître, lors de sa visite dans cette prison fédérale d'El Reno dans l'Oklahoma, le président Obama a rencontré dans une cellule trois hommes qui lui ont parlé de leur enfance et de leur vie. Le président a dit que leurs erreurs de jeunesse ne sont pas différentes des siennes et qu'il fallait distinguer les personnes ayant fait quelque chose de stupide des criminels endurcis. Alors, maître, quelle place occupe la réhabilitation des prisonniers dans le système carcéral ici aux États-Unis?
Je pense que la réhabilitation des prisonniers occupe une place majeure parce que dites-vous bien que lorsque vous partez, on vous envoie en prison, si vous n'êtes pas bien encadré en prison, lorsqu'on vous relâche dans la rue, c'est comme un militaire qu'on a formé et on met dans la rue, on le chasse de la fonction. Ça veut dire que c'est un criminel bien formé, il connaît comment se passe la prison et il connaît comment esquiver la prison, il sait ce qu'il peut faire pour torturer la population et ne pas arriver en prison.
Qu'il a beaucoup appris au contact d'autres prisonniers.
Beaucoup appris au contact des criminels, des vrais criminels qui sont condamnés pour des crimes odieux. Donc, si on encadre pas ces jeunes prisonniers-là, ceux qui ont fait des erreurs, lorsqu'ils ressortent, ils deviennent des vrais criminels, formés en prison. Donc, la réhabilitation des prisonniers, moi, je pense que ça a toute sa place. Et lorsque vous allez en prison, vous avez droit à l'éducation, à des formations, à des métiers professionnels qui, lorsqu'ils vous garantissent un emploi aux sorties de votre prison, peut-être que si vous avez commis des crimes odieux, vous n'avez peut-être plus le droit au vote. Mais après un certain nombre de temps, on vous remet votre droit de vote. Ça, c'est peut-être des sanctions civiles, mais je pense que ça a tout son pesant d'or. Donc la réhabilitation du prisonnier, si vous me demandez, je dis que ça a une place importante.
Et on a des gens qui sont allés en prison et qui, durant leur séjour, ont pu terminer leurs études secondaires ou même universitaires, obtenir des diplômes.
Absolument. Nous avons plusieurs prisonniers qui sont partis en prison sans avoir fini le lycée et qui ont obtenu le baccalauréat en prison et qui, au sortir de la prison, sont permis d'aller à l'université, de finir des études et de devenir des professionnels, des personnes complètement réhabilitées, ayant appris leurs leçons et ont juré de ne plus jamais commettre les mêmes erreurs. Et c'est justement pour ça que vous avez vu récemment, M. Obama a libéré une quarantaine de prisonniers qui avaient été condamnés pour des peines vraiment très élevées, pour des erreurs, une simple. On vous retrouve en possession d'un petit morceau de marijuana et vous êtes en prison pour une très longue durée. Je pense que monsieur le président a gracié ces personnes-là parce que la peine était très élevée, était disproportionnée par rapport à l'infraction.
Et vous parlez tantôt du droit de vote qui est supprimé pour les anciens prisonniers. Le président Obama a appelé à une restauration du droit de vote de ces anciens prisonniers puisque, selon lui, ils ont purgé leur peine, ils se sont acquittés de leurs devoirs vis-à-vis de la société. Et le président Obama a aussi appelé les employeurs à ne pas rejeter les anciens prisonniers du fait de leur passé carcéral. Ça, c'est un appel très important.
Bon, c'est un appel très important, mais pas, malheureusement, dites-vous bien que c'est toujours le gouvernement fédéral qui demande à avoir le casier judiciaire des anciens détenus avant de pouvoir vous recruter. C'est une loi qui est imposée par le gouvernement fédéral lui-même. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le président et l'appel pour la réforme, c'est justement pour ça qu'il faut réformer le système judiciaire. Mais dites-vous bien que 95% des personnes qui ont 2, 3, 4 crimes dans leur casier judiciaire, il y a de fortes chances que ces personnes commettent un cinquième crime. Les personnes, par exemple, aux États-Unis qui sont condamnées pour des crimes sexuels sont enregistrées dans un registre à vie. Et vous êtes reconnu partout comme criminel sexuel, vous avez violé quelqu'un, ça reste là, ça ne va pas quelque part. Et quand vous avez violé quelqu'un une, deux ou trois fois, il y a de fortes chances que vous le faites pour la quatrième fois. Et ce sont des précautions que les employeurs doivent prendre pour être sûrs qu'ils sont couverts. Parce que dites-vous bien que si vous recrutez quelqu'un qui est criminel et que durant son emploi avec vous, la personne viole quelqu'un d'autre, vous-même, vous êtes négligent parce que vous n'avez pas fait votre due diligence, comme on le dit en anglais, pour vous assurer que les personnes que vous avez recrutées dans votre entreprise sont des personnes de bonne foi. Donc, il y a tout ça, c'est une cacophonie, mais moi je ne pense pas que supprimer les enquêtes sur les casiers judiciaires, c'est une bonne solution. Je pense que ça vaut le pesant d'autres, mais il faudrait plutôt faire la distinction entre ceux-là qui ont un casier judiciaire très lourd et avec ceux-là qui ont une infraction dans le casier judiciaire. OK, vous avez bu, vous avez fait un accident, ce n'est pas le crime du siècle, ça arrive, mais c'est criminel. Ça, il faut faire la différence entre celui qui a bu et qui a fait un accident, qui a tué quelqu'un par négligence, de celui-là qui est parti, qui a braqué, qui a fusillé, qui a violé, qui a fait tout ça. Moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux cas.
L'Amérique et vous sur les ondes de VOA Afrique. Je crois que nous avons Michael Moukoko de RDC en ligne. Bonsoir, Michael. Allô, Michael ?
Oui, allô ?
Oui, allez-y, Michael. Vous êtes sur l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Voilà, nous avons du mal à entendre notre ami Michael Moukoko. Mais allons sur Facebook pour lire quelques réactions. Ousmane Mahadir écrit, c'est un bon pas que le président Obama a effectué. Sinon, il n'y aurait pas l'équité dans les prisons états-uniennes. Diallo Tierno Omar Diallo écrit « Félicitations à M. Obama, j'adore ce geste, si nos dirigeants aussi pouvaient faire la même chose ». Réaction de notre ami Omar Kébé qui dit que le président Obama doit aller plus loin, il doit aller à Guantanamo pour voir aussi dans quelles conditions vivent les otages, ce qu'il appelle les otages musulmans, et ordonner leur libération immédiate, parce que la plupart d'entre eux n'ont rien fait dans la vie contre les États-Unis. Donc, mettre fin à la question de Guantanamo, c'est une question qui échappe un peu au cadre de la justice américaine.
Je pense que c'est une question de sécurité nationale. Ça échappe dans le cadre de la justice américaine.
Et surtout que Guantanamo est hors du territoire américain.
Guantanamo, c'est au Cuba. Mm-hmm. Et juste pour adresser le problème de cet auditeur-là, M. Obama, dans son programme politique, s'est entrepris de fermer la prison de Guantanamo. Donc, en fermant la prison, ça va résoudre son problème. Espérons.
Voilà. Donc, voilà, ok, on me dit que Michael est de retour. Michael, allez-y, Michael.
Oui, allô.
Oui.
Je voulais les féliciter seulement. Et qu'il passe aussi pour les pays africains. Il y a trop de guerres ici en Afrique, vraiment. Il passe aussi pour nous. Il fait quelque chose pour l'Afrique.
Merci, Michael. Évidemment, mettre fin à ce que les États-Unis peuvent faire pour les pays africains est assez limité, finalement, en dehors des rapports annuels du Département d'État sur l'état des droits de l'homme en Afrique, en dehors des plaidoyers en direction des gouvernements africains. Il n'y a pas grand-chose que les États-Unis puissent faire concrètement pour changer la condition carcérale en Afrique même.
Pour parler des termes juridiques, je peux dire que tout ce que le reste du monde entier, l'Amérique y compris, peut faire en direction de l'Afrique, c'est simplement un recours gracieux. Il n'y a pas de possibilité de recours contentieux parce que chaque État, chaque pays est un pays, il y a la souveraineté des États qu'il faut respecter. Donc les États-Unis ne viendront jamais au Cameroun imposer une loi, imposer la gestion du système judiciaire ou alors imposer comment est-ce que les prisons doivent être gérées. Même pas Human Rights Watch, même pas les différentes organisations de défense des droits de l'homme. Moi, je pense par contre qu'il nous revient à nous-mêmes, à nos dirigeants, de faire quelque chose dans ce sens-là et de faire la distinction claire entre ce qui est criminel et ce qui est civil et de ne mettre en prison que ceux-là qui sont vraiment reconnus coupables, parce que même s'il est vrai que vous avez commis un crime, il y a encore la liberté sous caution. Vous pouvez être dans les rues de façon provisoire en attendant votre condamnation. Ça va diminuer la population carcérale.
Voilà, merci maître. Il y a déjà plusieurs associations de défense des droits humains qui proposent des services judiciaires à des personnes qui n'en ont pas les moyens. Voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous. Merci à maître Joseph Fa. Merci à tous nos auditeurs. Rendez-vous tous les vendredis dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. VOA.